Je voudrais continuer à mettre en évidence le combat de l'espérance, après avoir parlé du combat de la foi. Et la dernière fois, j'ai surtout montré l'espérance en tant qu'elle est un désir que l'Esprit Saint éveille en nous, qui dépasse le désir, ou disons plutôt la soif naturelle de Dieu. Et un désir qui doit être celui de notre cœur et pas simplement celui de notre esprit au sens d'une grande aspiration, de grands désirs spirituels que l'on pourrait éprouver. Je pense notamment à des personnes qui sont plutôt idéalistes. C'est évident que quand on est jeune, eh bien, l'espérance est souvent mélangée, l'espérance divine, disons, est souvent mélangée à une grande part d'idéalisme. Et c'est dans ce cadre-là que l'on éprouve de grands désirs, mais qui ne signifie pas pour autant qu'on ait une grande espérance. Parce que ce qui importe, c'est que notre cœur fait pour aimer, notre cœur d'enfant, mette vraiment sa joie, son bonheur, c'est-à-dire en définitive son espérance, dans l'amour même de Dieu, dans cette communion d'amour à laquelle nous sommes appelés et dont nous vivrons éternellement. Et cela est bien plus grand que le fait de désirer aimer, de désirer faire des choses pour les autres, de désirer se sacrifier pour les autres, de désirer même donner sa vie. C'est quelque chose de plus profond, de plus radical, et qui suppose tout un chemin par lequel notre cœur se laisse vraiment toucher par l'amour même de Dieu. Il y a des personnes qui pensent que espérer, c'est désirer, désirer aimer, désirer vivre le grand amour, alors que plus radicalement, c'est vraiment désirer Dieu lui-même et cette communion d'amour avec Dieu qui est le royaume de Dieu. Ce désir de Dieu, quand il est un désir vraiment surnaturel, prend la forme d'un gémissement, nous dit saint Paul. Nous-mêmes qui possédons les prémices de l'Esprit, nous gémissons intérieurement dans l'attente de l'adoption filiale et de la rédemption de notre corps. À travers cette image d'un gémissement intérieur, nous voyons que l'espérance véritable, elle est accompagnée d'une certaine souffrance du fait de ressentir, au-delà des idées qu'on peut avoir dans notre esprit, de ressentir que ce monde ne pourra jamais nous combler, que rien dans ce monde ne pourra jamais nous satisfaire, que donc nous sommes dans le monde tout en n'étant pas du monde, comme dit Jésus, je vous ai tiré hors du monde, c'est l'espérance qui nous tire hors du monde, qui fait que tout en vivant dans le monde, c'est-à-dire d'une certaine manière comme tout le monde, l'espérance nous fait vivre en décalage permanent avec ceux qui n'ont ni Dieu ni espérance et qui mettent leur cœur dans les réalités du monde. Quand je dis dans les réalités du monde, c'est, je pense notamment dans les relations affectives, dans l'amour humain. Et plus l'espérance grandit en nous, plus on ressent le décalage entre l'amour humain, ce que l'on peut vivre humainement dans des relations d'attraction mutuelle, et le véritable amour qui nous fait aimer l'autre en Dieu, pour l'amour de Dieu. Et il y a un abîme entre les deux. Celui qui se laisse entraîner sur le chemin de l'espérance perçoit cet abîme, et ceux qui ne vivent pas vraiment dans l'espérance ne peuvent pas comprendre. Et donc il y a une souffrance de se sentir comme en exil, de sentir la vanité de plus en plus des choses que le monde nous offre. C'est pour ça que j'étais heureux de trouver dans le catéchisme la mention de l'espérance d'Abraham. Nous avions parlé de la foi d'Abraham. Le catéchisme nous invite à considérer l'espérance d'Abraham aussi comme un modèle. Et qu'est-ce que dit l'Écriture à propos de l'espérance d'Abraham ? Par la foi, Abraham vint séjourner dans la terre promise comme en un pays étranger, y vivant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob. C'est qu'il attendait la ville pourvue de fondations dont Dieu est l'architecte. Ils ont confessé qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur terre. Ceux qui parlent ainsi font voir clairement qu'ils sont à la recherche d'une patrie. S'ils avaient pensé à celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Or, en fait, ils aspirent à une patrie meilleure, c'est-à-dire céleste. En fait, l'espérance fait de nous des nomades, des gens qui n'ont pas de domicile fixe, des gens de passage qui ne peuvent pas s'installer. Que ce soit s'installer dans son travail, dans son apostolat, dans sa communauté ou dans une vie familiale. L'espérance nous empêche de trouver une position stable dans laquelle nous pourrions nous sentir chez nous. Et ne serait-ce qu'en disant ça, nous comprenons bien la difficulté quand on arrive dans l'âge adulte d'accepter de rester nomade. C'est plus facile quand on est jeune de se sentir nomade, mais comprendre que même parvenu à maturité, eh bien Dieu nous demande de rester dans cette attitude de gens qui vivent sous des tentes et qui ne peuvent s'installer nulle part. Mais vous voyez, ce ne sont pas des choses qui sont dans la tête au sens où on se dirait « je suis fait pour Dieu et je ne peux pas me contenter d'autre chose que Dieu ». Ce sont des choses qui se vivent dans le cœur et dans l'âme aussi, dans la sensibilité, qui fait que de fait on ressent cette insatisfaction et ce gémissement intérieur de l'âme qui crie, qui crie sa souffrance de ne pas être encore en Dieu. Et en même temps que grandit le désir, le vrai désir de Dieu, eh bien donc s'opère une purification par rapport à l'attachement aux créatures et au monde qui sont à la vaine gloire, qui fait dire à saint Jean que celui qui a cette espérance en lui, dans le Christ, se rend pur comme celui-là est pur. Donc, il y a un chemin de purification de notre cœur et de notre âme qui se fait par la vertu même de l'espérance. Comme un désir si profond, si intime de la vraie vie que ce qui n'est pas la vraie vie apparaît de plus en plus pour ce qu'il est, c'est-à-dire quelque chose qui ne peut pas nous procurer la joie et nous rassasier. Et on le ressent sans avoir besoin de le penser. Il y a des personnes très simples qui vivent ces purifications de la sensibilité sans en avoir conscience et sans avoir aucun concept par rapport à la vanité des choses. Mais c'est Dieu lui-même qui, par le désir qu'il met dans notre cœur, nous fait perdre le goût des choses. La purification de notre sensibilité par l'espérance, c'est proprement ça que saint Jean de la Croix appelle la purification des sens. Ici, plus précisément, il faut parler de la purification passive, au sens où c'est l'espérance elle-même, ce désir ardent qui l'opère. Il y a donc une force de ce gémissement intérieur qu'il faut laisser opérer en nous dans la prière, mais même aussi dans la vie quotidienne, en tâchant notamment de profiter aussi des déceptions, des épreuves, des échecs, pour laisser ce gémissement s'intensifier en nous et opérer cette œuvre purificatrice. Il peut y avoir des souffrances d'âme comme ça, dont on ne voit pas la cause aussi, qui sont pas liées à des déceptions particulières, mais simplement au fait que notre âme vit ce vide des choses, sans nécessairement d'ailleurs ressentir un désir sensible de Dieu. Quand saint Jean n'aimait ni le monde, ni ce qui est dans le monde, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la richesse, littéralement on pourrait traduire la satisfaction insolente de la vie. Pensez à des personnes qui sont repues et qui étalent leur satisfaction d'être comblées par la vie, Tout cela vient non pas du Père, mais du monde. N'aimer ni le monde, ni ce qui est dans le monde, c'est quelque chose qui donc, peut s'opérer par la vertu de l'espérance, au sens où on perd le goût du monde et de ce qui est dans le monde. À ce moment-là, l'espérance nous protège par rapport aux tentations du monde. Quand Jésus dit « Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation », l'esprit est ardent mais la chair est faible, il peut signifier aussi la nécessité donc de réveiller en nous cette nostalgie de la vraie vie pour laisser s'éteindre en nous les convoitises du monde. On peut dire que l'espérance, en tant qu'elle est un désir brûlant, est comme un feu qui consume nos attachements secrets. Et elle le consume dans le temps. Je pense notamment aux attachements affectifs qui peuvent perdurer pendant des années dans le secret, mais au fur et à mesure qu'on laisse donc l'espérance prendre possession de notre cœur en se laissant toucher par Dieu, il y a une purification au goutte à goutte, purification très progressive qui se fait par là. Dans la vie spirituelle, il y a toujours une réciprocité dans les choses, c'est-à-dire que si l'espérance nous purifie, il est vrai aussi que tout ce que nous faisons pour nous purifier, c'est-à-dire pour poser des actes de renoncement, laisse grandir davantage l'espérance. Pour ça, quand Jésus dit « Quiconque parmi vous ne renonce pas à tous ses biens, ne peut être mon disciple », il nous invite à faire ce qui dépend de nous pour avancer sur ce chemin du détachement des choses de ce monde, n'aimer ni le monde ni ce qui est dans le monde, de telle manière à laisser s'épanouir le désir du royaume de Dieu. Et donc, il peut y avoir des moments où pour retrouver l'espérance, une espérance vive, Dieu attend de nous des actes concrets de renoncement, de vrais sacrifices que nous pouvons être amenés à poser sans ressentir nécessairement une grande espérance dans notre cœur. Vous voyez, il y a d'un côté la joie dont on avait parlé à propos de la parabole de l'homme qui a découvert le trésor caché. Et c'est tout joyeux qu'il vend tout ce qu'il possède, donc il renonce à tout pour acheter le champ. Et il y a d'autres moments où c'est le mouvement inverse, c'est-à-dire Dieu peut nous demander de lâcher quelque chose, de telle manière à retrouver la joie de l'espérance. Donc on peut être amené à poser des actes de renoncement, de détachement, d'une manière sèche, dans, je dirais, tout un combat intérieur. Et on sent que quand on a accepté de passer par ce chemin étroit et resserré, à nouveau notre cœur se dilate, s'élargit, et l'espérance peut renaître en nous. En fait, elle n'a jamais cessé d'être là, sinon on n'aurait pas eu, de fait, la force de poser ces actes de renoncement. J'insiste sur le fait que l'espérance peut être en nous sans être nécessairement sensible, sans être aussi nécessairement épanouie en nous. Il peut y avoir des personnes qui ont commencé un chemin de détachement, qui en même temps ont perdu l'enthousiasme de la jeunesse, les grands désirs sensibles, les grandes aspirations, qui fait qu'elles ne sont plus portées sensiblement par le désir de Dieu. En même temps, elles ont commencé à se détacher des choses du monde, donc elles ne jouissent plus de la même manière des choses du monde. Mais elles sont, vous voyez ce que je veux dire, un peu comme entre deux eaux. Et l'image de ça, c'est la traversée du désert. Et on a commencé à quitter l'Égypte, mais on n'est pas encore vraiment purifié en profondeur. Et c'est là qu'on peut être tenté, au moment donc de ce passage d'une rive à une autre, il peut y avoir notamment donc au moment de l'âge adulte, tentation de finalement de chercher une position de repli, disons de compromis, parce qu'on ne supporte pas bien cet état d'insatisfaction, du fait qu'on ne goûte pas bien ni les choses du monde, ni les choses de Dieu. Mais c'est ici qu'intervient une notion tout à fait décisive pour la compréhension du combat de l'espérance, qui est la patience, la persévérance. Écoutez, Saint Paul, ou plutôt l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui pourrait être Barnabé, dans son exhortation donc à une communauté chrétienne éprouvée. Rappelez-vous ces premiers jours où, après avoir été illuminé, vous avez soutenu un grand assaut de souffrances. Vous avez accepté avec joie la spoliation de vos biens. Les premiers jours, la joie, l'illumination. C'est vraiment le trésor caché, découvert, et on accepte de perdre, de vendre tout ce que l'on a pour acheter ces trésors. Sachant que vous étiez en possession d'une richesse meilleure et stable. Ne perdez donc pas votre assurance. Elle a une grande et juste récompense. Vous avez besoin de persévérance pour que, après avoir accompli la volonté de Dieu, vous bénéficiez de la promesse. Alors, Benoît XVI a commenté ce passage de l'Épître aux Hébreux dans son encyclique sur l'espérance. Et il montre que la spoliation de vos biens, le terme grec, hyparconta, désigne les propriétés qui constituent le fondement, la base, la substance pour la vie sur laquelle on compte, la sécurité normale dans la vie. Le minimum nécessaire pour vivre dans ce monde aux yeux du monde. Et donc vous avez accepté avec joie la spoliation de vos biens, de certaine manière, on peut le rattacher à la parole de Christ, celui qui perd sa vie à cause de moi. Vous avez accepté de perdre ce qui constitue la base pour la vie. L'homme vit de relations. Il vit de son travail. Il vit d'une reconnaissance. Il vit d'une position dans le monde. Vous avez accepté de le perdre, sachant que vous étiez en possession de biens meilleurs. Ils pouvaient l'abandonner parce qu'ils avaient trouvé une base meilleure pour leur existence, commande Benoît XVI. Une base qui demeure et que personne ne peut enlever. La foi confère à la vie une base nouvelle, un nouveau fondement. Et cette base nouvelle, ce nouveau fondement, il nous est donné de quelle manière ? Benoît XVI, avant de commenter ce passage, commente un autre verset de l'Épître aux Hébreux qui parle de la foi et qui nous dit que la foi est la substance, hypostasis, ça a été traduit ainsi dans la tradition de l'Église, et la substance des biens que l'on espère, la preuve des réalités que l'on ne voit pas. Et donc, il y a cette idée que, par la foi, tout en vivant un gémissement intérieur, tout en éprouvant la souffrance de ne pas voir encore Dieu, par la foi, il y a déjà une certaine possession du bien que l'on espère. Et donc, en fait, l'espérance qui nous fait désirer Dieu trouve en même temps, vous voyez, un support, une force dans le fait que ce que nous espérons, quelque part, est déjà présent en nous, est déjà une réalité présente en nous. Et qu'est-ce que cette jouissance de la réalité que l'on espère, comment ça s'appelle dans la tradition de l'Église, au fond, qu'est-ce que la foi nous fait vivre pour que nous puissions dire que celui qui croit a déjà la substance des biens qu'il espère. La substance, on pourrait dire le noyau, l'essentiel, des biens qu'il espère. C'est la foi en tant qu'elle nous permet d'être en contact avec Dieu, déjà. C'est-à-dire, en fait, ce dont il est question ici, me semble-t-il, hein, c'est de la contemplation. C'est-à-dire que Dieu nourrit secrètement l'esprit de ceux qui espèrent en lui. Et comme ça, il leur permet de vivre, d'avoir la force de vivre dans le monde sans vivre de ce que vit le monde, en n'ayant plus la base qui fait la... je dirais, le fondement normal d'une vie sur Terre. Les Hébreux qui traversent le désert, ils n'ont plus de pain et ils n'ont plus d'eau. De fait, ils ont accepté, ils ont quitté l'Égypte, ils ont quitté les oignons d'Égypte, ils ont quitté la sécurité de l'Égypte en même temps sécurité d'être dans une condition d'esclave, mais malgré tout une sécurité. Et ils ont accepté donc d'être dépouillés de tout ce qui les faisait vivre auparavant pour entrer dans un chemin où en réalité ce qui nous est fait comprendre à travers l'image de la manne, c'est que c'est Dieu lui-même qui les nourrissait. La manne, par laquelle nous est signifié que l'homme ne vit pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, précisément la parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est la manière dont je peux entrer en écoutant la parole de Dieu, comme Marie au pied de Jésus, qui écoutait les paroles de Jésus pendant que Marthe s'inquiétait et s'agitait, c'est en écoutant la parole que je peux déjà expérimenter que de fait par la foi, par une foi qui regarde Dieu, qui écoute Dieu, je trouve une nouvelle base vitale pour pouvoir continuer à vivre dans ce monde sans être du monde. Je me souviens du témoignage d'une mère qui me parlait de ses deux filles qui avaient été très bien éduquées, qui suivaient donc les exigences morales de la foi chrétienne, mais qui apparemment n'avaient pas particulièrement de vie de prière. Mais surtout des valeurs et une morale, et qui faisait des études en médecine. Et elle me disait, mais plus ça va et plus elle déprime. Elle déprime parce que elle se sent pas. Il n'y a rien qui les nourrit et qui les fait vivre. C'est-à-dire, on n'a pas tellement le choix. Ou on retourne à la base qui fait la base du monde, de la vie du monde. On est comme les Hébreux qui veulent retourner en Égypte. Ou alors on se nourrit de la manne. Mais on ne peut pas vivre sans vie. On ne peut pas vivre sans quelque chose qui nous fait vivre. Donc il y a ce moment dans la vie spirituelle où on peut être tenté de revenir en arrière parce qu'on trouve que c'est trop difficile de rester fidèle à Dieu dans le monde et que donc on va être tenté par des compromis. Alors qu'en réalité, si on avait persévéré, avec de la persévérance, du courage, il faut bien le dire, mais en même temps la sagesse de trouver, de laisser Dieu nous nourrir d'une autre nourriture qui n'est évidemment pas du même ordre, qui n'est pas sensible de la même manière, mais qui est malgré tout une vraie nourriture, la manne de sa parole, eh bien nous aurions pu traverser le désert jusqu'au bout. Il n'est pas difficile de voir que le combat, là, il est énorme. Et que dans un monde qui ne cesse de nous dire que finalement, on se fait illusion que la foi, bon, c'est bien d'avoir une croyance, un idéal, mais que ce n'est pas ça qui de toute façon peut nous faire vivre, et que la psychologie le montre bien. Accepter de se laisser dépouiller de nos biens, de ce qui assure la vie aux yeux du monde, bien c'est accepter une forme de martyr. Mais un martyr qui est supportable dans la mesure où nous laissons Dieu nous consoler et nous nourrir de lui-même déjà par la foi. Écoutez ce que dit l'Épître aux Hébreux à propos de Moïse cette fois. Par la foi, il quitta l'Égypte, sans craindre la fureur du roi. Comme s'il voyait l'invisible, il tint ferme. Voyez, là, vous avez la force de la contemplation. Quand je dis contemplation, c'est pas n'avoir de grande lumière, mais c'est ce contact intime avec Dieu qui nourrit réellement l'esprit et qui lui donne donc la force de tenir bon, de tenir ferme, alors même que son psychisme, son affectivité est affamée. Actuellement, il va de soi que rester fidèle à Dieu au niveau de la vie affective, de la vie sexuelle, si on n'a pas une vie contemplative, c'est de plus en plus impossible à vivre. En même temps, c'est ce qui peut faire l'intérêt du temps qu'on vit, c'est-à-dire il apparaît clairement que la vie chrétienne, elle est relation vivante à Dieu ou elle n'est rien. En tout cas, rien qui fasse vivre. Dieu permet ces situations dans lesquelles on ne jouit plus des réalités de ce monde, en tout cas comme on en jouissait avant, et en même temps dans lequel on n'est pas encore vraiment installé dans la contemplation, et donc où a lieu vraiment la tentation du découragement, la tentation de penser que ce chemin n'est pas pour nous et que nous n'aurons jamais la force d'aller jusqu'au bout. Et donc c'est ici que l'Épître aux Hébreux nous rappelle la nécessité de la patience, de la persévérance. Hypomoné, c'est le terme grec. Explique Benoît XVI, se traduit normalement par patience, persévérance, constance. Savoir attendre en supportant patiemment les épreuves est nécessaire aux croyants pour pouvoir obtenir la réalisation de la promesse. Dans l'ambiance religieuse du judaïsme antique, cette parole était utilisée de manière expresse pour parler de l'attente de Dieu qui caractérise Israël, à savoir persévérer dans la fidélité à Dieu, en se fondant sur la certitude de l'alliance dans un monde qui est en opposition à Dieu. Ainsi, la parole indique une espérance vécue, une vie fondée sur la certitude de l'espérance. Au fond, vous voyez que c'est dans la patience que notre espérance s'éprouve. Qu'elle devient ce qu'elle est vraiment, c'est-à-dire un désir, mais un désir confiant. Un désir qui attend de Dieu. Comme dit saint Paul dans l'Épître aux Romains, espérer ce que l'on ne voit pas, espérer ce que nous ne voyons pas, c'est l'attendre avec constance. Romains 8, 25. Nous l'attendons avec patience pour laisser grandir en nous ce désir, pour laisser s'élargir notre cœur et pouvoir ainsi bénéficier vraiment de l'objet de la promesse. Dans cette patience que Dieu peut nous demander de vivre, donc dans cette traversée du désert, nous sentons entre deux, j'allais dire entre deux chaises, mais plutôt entre deux rives, avec les tempêtes des passions qui peuvent nous assaillir à nouveau, eh bien, dans cette patience, dans cette persévérance, se vit, s'achève de se vivre les purifications passives. Vous avez besoin de patience, de persévérance, pour pouvoir bénéficier de l'objet de la promesse. Vous avez besoin de persévérer dans le détachement pour pouvoir entrer dans une vie nouvelle. C'est une foi sans défaillance, nous dit l'Écriture à propos d'Abraham. C'est d'une foi sans défaillance qu'il considéra son corps déjà mort. Il avait quelque 100 ans et le sein de Sarah mort également. À l'égard de la promesse de Dieu, il ne douta pas par manque de foi, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, pleinement convaincu que ce que Dieu a promis, il est assez puissant ensuite pour l'accomplir. Voyez, la foi, espérant contre toute espérance, il crut, c'est la foi qui peut nous donner la force de la persévérance en nous appuyant sur les promesses de Dieu et en nous appuyant aussi sur le fait que, bien, dans la foi, nous est donné déjà une certaine connaissance, une certaine capacité donc à goûter déjà les biens que nous espérons. C'est pour ça que l'Épître aux Romains peut nous appeler donc à aussi dans ces moments de traversée du désert, à nous réfugier dans les Saintes Écritures. Tout ce qui a été écrit dans le passé, dit saint Paul dans l'Épître aux Romains, au chapitre 15, verset 4, le fut pour notre instruction, afin que la constance, la patience, et la consolation, c'est-à-dire la contemplation, que donnent les Écritures, nous procurent l'espérance. Mais la manne dans le désert, ce n'est pas que la parole de Dieu, donc dont nous avons besoin pour vivre quotidiennement notre traversée du désert. La manne, c'est aussi l'Eucharistie. S'il est vrai que les sacrements, dit Benoît XVI, sont une réalité qui appartient à l'Église qui chemine dans l'histoire vers la pleine manifestation de la victoire du Christ ressuscité, c'est-à-dire elle est donnée pour l'Église donc en chemin vers le royaume, donc dans sa traversée du désert. Il est cependant tout aussi vrai que, spécialement dans la liturgie eucharistique, il nous est donné de goûter l'accomplissement eschatologique vers lequel tout homme et toute la création sont en chemin. C'est-à-dire, précisément, il nous est donné de goûter la substance des biens que nous espérons. Il nous est donné de goûter déjà quelque chose de la vie éternelle. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, dit Jésus. On ne dit pas « aura la vie éternelle », mais « a la vie éternelle ». L'homme est créé pour le bonheur véritable et éternel que seul l'amour de Dieu peut donner, mais notre liberté blessée s'égarerait s'il n'était pas possible d'expérimenter dès maintenant quelque chose de l'accomplissement à venir. Voyez le besoin que nous avons d'expérimenter, de goûter déjà, de vivre déjà. Si on pense qu'il suffit d'avoir de belles pensées, des convictions, de la générosité, si on s'appuie sur des grands élans qu'on a pu ressentir à certains moments, si on croit que notre intention de vivre pour Dieu peut suffire, on se trompe. On a absolument d'être vitalement nourri, c'est-à-dire de toucher quelque chose de Dieu déjà, alors que nous sommes en exil et en marche vers lui. Notre liberté blessée s'égarerait s'il n'était pas possible d'expérimenter dès maintenant quelque chose, la substance des biens, quelque chose de l'accomplissement à venir. Du reste, tout homme a besoin pour pouvoir cheminer dans la bonne direction d'être orienté vers le but final. En réalité, cette fin ultime est le Christ Seigneur lui-même, vainqueur du péché et de la mort, qui se rend présent à nous de manière spéciale dans la célébration eucharistique. En définitive, la parole de Dieu, c'est le Christ, et l'Eucharistie, c'est le Christ. C'est le Christ qui nous nourrit, qui est le vrai pain de vie dont nous avons besoin. Et précisément, nous avons besoin de vivre dans la foi au Christ, dans une foi contemplative. Nous avons besoin de regarder Jésus, de rester en contact intérieur avec lui. À ce moment-là, c'est lui qui nous accompagne dans notre traversée du désert, en nous nourrissant secrètement, plus intime de notre cœur et de notre esprit. Ainsi, tout en étant encore nous aussi des gens de passage et des voyageurs dans ce monde, nous participons déjà, dans la foi, à la plénitude de la vie ressuscitée. Si on réfléchit, vous voyez, au temps que nous vivons, qui sont pour l'Église plus que jamais un temps de traversée du désert, dans lequel elle vit une profonde purification, bien, on s'aperçoit que le souci du magistère, c'est d'inviter le petit troupeau, le petit reste, à revenir à cette vie qui nous est déjà donnée, cette vie cachée, qui n'est pas toujours sensible, mais qui fortifie réellement notre cœur et notre esprit, en nous invitant à mettre l'Eucharistie au cœur de notre vie, et aussi, avec l'Eucharistie, la parole de Dieu. Ce sont les deux derniers synodes, précédés par une année mariale, pour nous indiquer la manière dont nous pouvons le mieux profiter de l'Eucharistie et de la parole de Dieu, c'est-à-dire en entrant dans les dispositions du cœur de Marie, dans sa foi et dans son espérance. Ainsi, nous cheminons comme des enfants qui se laissent nourrir par leur père. Le père, il n'a qu'une seule nourriture à nous donner, c'est son fils. Nous cheminons comme des enfants, recevant cette manne pour chaque jour, essayant de ne pas trop imaginer l'avenir. Parce que si nous commençons à réfléchir humainement, nous pouvons dire que nous ne pourrons jamais tenir sur la durée. Mais nous avons donc cette nourriture secrète que le monde ne connaît pas, qui ne peut pas goûter. La nourriture des pauvres du Seigneur, la nourriture des enfants de Dieu qui nous accompagnent, et qui nous donne la force de supporter ce qui nous reste à supporter d'épreuves, de déserts, de sécheresses, pour que notre humanité, notre cœur et notre âme soient vraiment entièrement purifiés. Je rajouterai une chose, c'est que dans cette traversée du désert, si nous acceptons donc de tenir nos reins sains, c'est-à-dire de vivre dans cette sobriété et même plus encore dans cet exercice concret du renoncement à des choses qui font vivre le monde, si nous acceptons de tenir bon dans cette vie, on peut dire, sacrificielle, de détachement, en nous laissant porter par la vie éternelle qui nous est déjà donnée dans le Christ, Dieu peut déjà nous donner, à la mesure de notre renoncement, d'expérimenter quelque part une certaine résurrection déjà de notre sensibilité, au sens que, en acceptant de perdre le goût aux choses, comme le monde les goûte, eh bien, nous pouvons rentrer, après avoir accepté de suivre ce chemin donc de détachement, dans un nouveau goût des choses elles-mêmes. C'est pour ça que dans Saint Marc, Jésus peut dire que celui qui a renoncé pour lui à, en temps présent, en maison, frère, sœur, mère, enfant et champ, recevra dès maintenant le centuple. C'est-à-dire, il nous est donné de goûter les choses en Dieu, avec un cœur dilaté, un cœur élargi, une sensibilité épanouie qui fait que, en réalité, nous sommes beaucoup plus capables de jouir du vrai bien de la création que ceux qui s'attachent aux choses de la terre sans tourner leur cœur et leur esprit vers Dieu. Et donc nous avons aussi l'espérance que dans ce chemin de détachement, qui est le chemin de l'espérance, d'appauvrissement, de dépouillement, il y a place aussi pour des joies dans les réalités créées, mais des joies qui sont d'autant plus données qu'on ne les aura pas recherchées. C'est le surcroît promis par Jésus. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et le reste sera donné par surcroît. Dans ce surcroît est compris tout ce qui touche aux relations affectives, ce qui touche au mariage, de penser que les joies humaines du mariage peuvent être redonnées pour ceux qui acceptent, comme dit saint Paul, de vivre mariés comme s'ils n'étaient pas mariés, d'aller jusqu'au bout du détachement. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à père, mère, femme, enfant. Et de penser que toutes ces joies humaines sont redonnées dans une pureté, une force nouvelle, de grande profondeur de sensibilité qui fait qu'on en jouit beaucoup plus à la mesure du renoncement auquel on aura consenti. J'ai envie de dire bienheureux ceux qui peuvent entendre ce langage-là, bienheureux surtout ceux qui ont assez de patience, de persévérance, pour tenir ferme dans le chemin de la purification de la sensibilité, de l'affectivité, qui donc nous permet de donner toute la place à Dieu, mais qui nous permettra donc aussi de voir et de jouir des choses en Dieu et avec Dieu.